Europe 1. Bonjour, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Soyez les bienvenus au cœur de l'histoire. Seconde partie. Auguste et Louis, deux frères dans la lumière. Nous avons laissé Antoine Lumière au moment où, ruiné, il donne à ses deux fils, Auguste et Louis, la mission de sauver son entreprise. Les deux garçons ont obtenu un prêt et se remettent à la tâche avec ardeur. L'atelier familial se trouve alors dans le quartier de Montplaisir, dans la toute nouvelle zone industrielle de Lyon. Auguste s'occupe de l'administration de l'atelier. Louis, comme auparavant, s'occupe de la production des plaques de verre. Il améliore les émulsions et leurs emballages qui se trouvent à présent étiquetés de bleu, la marque de fabrique de la maison qui entrera dans la postérité.
Pendant de longs mois, nous nous sommes alors livrés, mon frère, mes deux sœurs et moi, à cette besogne pendant 12 et 14 heures par jour, enfermés dans des laboratoires obscurs, sans trêve ni repos, n'en sortant que pour prendre de rapides repas. En même temps, nous nous appliquions à faire construire des machines pour nettoyer les verres, pour couler l'émulsion. Nous dressions du personnel, la production devenait de plus en plus mécanique et abondante. Puis, après avoir étudié la fabrication des papiers sensibles pour le tirage des épreuves, ces nouveaux produits furent préparés et mis en vente, ainsi que ceux des substances chimiques utilisées en photographie.
En 1885, le bâtiment de l'usine Lumière occupe 6000 m² qui permettent d'héberger toute la chaîne de fabrication des plaques de verre. Cette année-là, des centaines de milliers de plaques sont produites. 3 ans après, ce sont près de 100 ouvriers qui travaillent dans l'entreprise, qui devient alors la plus grande entreprise d'Europe dans son domaine d'activité. Auguste et Louis, toujours friands d'innovation, s'engagent dans la production de pellicules souples, puis mettent au point les premiers procédés de photogravure. On peut désormais éditer des livres pourvus de reproductions photographiques. Un premier essai est tiré avec un Nouveau Testament du XIIIe siècle. En 1892, l'entreprise qui se nomme à présent Société Anonyme Antoine Lumière et Fils compte presque 200 employés. Auguste et Louis ont hérité des idées humanistes de leur père. Ils veulent que leur maison soit synonyme de progrès dans tous les sens du terme. Progrès artistique, progrès technique et progrès social. L'époque est aux grandes interrogations sur la misère et les moyens d'y remédier. Zola a révélé au monde la souffrance du monde ouvrier. Les propositions de réforme viennent tous azimuts. Eh bien, dans le bâtiment de l'usine, les frères Lumière installent un service médical avec une prise en charge des femmes enceintes. Et comme on est dans les grandes années de la caisse d'épargne, Antoine fait ouvrir un livret à tous ses employés. Emboîtant le pas à la fameuse formule du ministre Guizot « Enrichissez-vous », il crée un système de plan retraite. Partout, on parle de l'usine Lumière comme d'un endroit où il fait bon travailler. L'unité familiale va se renforcer encore lorsqu'Antoine se lie avec un voisin, Alphonse Winkler. Ce brasseur alsacien, bon vivant, a 2 filles et 2 fils. Au fil des jours, des liens forts unissent les enfants des deux familles. De fait, Auguste et Louis vont épouser les 2 filles Winkler. Quant aux 2 fils du brasseur, ils épouseront 2 des filles Lumière. À Paris, Antoine mène la belle vie et il a ouvert un atelier de peintre. Il aime ses journées dans la capitale quand ses activités ne le retiennent pas auprès de ses fils. Il noue des amitiés particulièrement fécondes. Il rencontre Nadar, qui photographie les vedettes, les stars de l'époque. Il aime à vagabonder sur les grands boulevards. Grâce à un ancien collègue de Lyon, il rencontre un certain Georges Méliès. Méliès est un magicien qui possède sur le boulevard des Italiens le théâtre Robert Houdin. Les deux hommes sympathisent. Un jour, de retour de Londres, Antoine Lumière, dans un état d'excitation voisin de l'hystérie, rapporte à Méliès un appareil qui, selon lui, va changer la face du monde. Il s'agit d'un kinétoscope, invention de l'industriel américain Edison. Cet appareil permet d'animer des images photographiques. Aussitôt, Antoine Lumière et Georges Méliès entreprennent d'organiser, dans le théâtre même, des séances de ce kinétoscope. On est dans un théâtre dédié à la magie. Des images de la réalité vivante, en mouvement, présentées dans le secret d'une chambre noire, si ça n'est pas de la magie, ça ne peut qu'attirer des foules. Et de fait, la presse s'empare aussitôt de l'événement.
Une sorte de boutique étincelante de lumière électrique. Dehors, l'œil collé à la vitrine, un rassemblement de passants et de flâneurs. Que fait-on ici? Que voit-on? Regardez, on voit tout bonnement à l'intérieur quelques boîtes d'1,50 m de hauteur, complètement fermées, et devant chacune d'elles, un monsieur ou une dame observant gravement ce qui se passe à l'intérieur. Entrez, payez 25 centimes, et l'on vous installera dans la première boîte libre. Singulier spectacle qui est destiné à faire fureur avant la fin de l'année. La boîte silencieuse, c'est le kinétoscope Edison. Il en existe déjà des exemplaires muets à Paris. Chacun pourra en mettre dans son salon. C'est une fantaisie qui coûtera plusieurs billets de mille, mais quel passe-temps pour les invités. Au moment où vous plongez l'œil à l'intérieur du kinétoscope, la lumière se fait. On assiste à de véritables scènes souvent très réussies. Tous les acteurs sont en mouvement. Leurs moindres mouvements sont si naturellement reproduits qu'on se demande s'il y a illusion. La vérité est étonnante.
Pour Antoine, qui rapporte la chose à ses fils, c'est une nouvelle aventure qui s'annonce, plus passionnante encore que la première. Mais il faut agir vite si l'on veut se faire un nom dans ce nouveau domaine. D'autant qu'outre-Atlantique, différents appareils rivalisent d'ingéniosité pour restituer le mouvement en photographie. Les brevets déposés sont nombreux et leurs procédés sont souvent le résultat des découvertes des uns et des autres. On ne sait plus vraiment d'ailleurs qui a inventé quoi. Les appareils portent tous des noms bizarres censés exciter l'imagination. Ainsi se succèdent, après le kinétoscope, le praxinoscope, le phénatistiscope, le chronophotographe ou encore le phonoscope. Antoine et ses fils sont très attentifs à toutes ces nouvelles inventions. Très vite, ils entreprennent de mettre au point leur propre appareil, un appareil capable de surpasser tous les précédents. Plusieurs améliorations sont envisagées. D'abord, il faut pouvoir faire sortir l'image de cette chambre noire où elle est enfermée. Par la lunette dont cette dernière est percée, il ne peut se trouver qu'un spectateur à la fois. L'idée, comme de coutume avec les lumières, est donc de chercher le moyen de projeter cette image animée sur un support extérieur, visible par tous, comme au théâtre. Il faut aussi trouver le moyen de tourner des images sur une plus grande durée. Les images de kinétoscope ne durent que 2 secondes. La légende, entretenue par Auguste Lumière, rapporte que l'invention qui donne naissance au cinéma est le fait de son frère, une nuit d'insomnie.
Vers la fin 1894, je me rendis dans la chambre de mon frère qui, un peu souffrant, avait dû rester alité. Il m'apprit que, ne dormant pas, il avait, dans le calme de la nuit, précisé les conditions à remplir pour atteindre le but cherché et imaginer un mécanisme. Il consistait, me dit-il, à imprimer à un cadre porte-griffe un mouvement produit par un mécanisme analogue à celui du pied de biche de machine à coudre. Ce fut une révélation et je compris aussitôt que je n'avais qu'à abandonner la solution précaire à laquelle j'avais songé. Mon frère, en une nuit, venait d'inventer le cinématographe.
Contrairement à l'idée répandue, selon laquelle les frères Lumière auraient inventé le cinéma, c'est donc bien de l'outil mécanique de projection dont Louis est l'auteur avéré. Ces améliorations, si elles ne sont pas une découverte à proprement parler, sont suffisamment importantes pour apporter la révolution attendue. On peut enfin projeter des images animées suffisamment longues et visibles par un vaste public. Le 13 février 1895, les deux frères signent le brevet pour un appareil servant à l'obtention et à la vision des épreuves chronophotographiques. La famille se réunit dans la maison de vacances de la Ciotat. On cherche un nom pour le nouvel appareil. Il faudrait trouver quelque chose qui sonne bien, qui ne soit pas trop compliqué, mais qui évoque tout de même la magie de la science. Après plusieurs propositions, parmi lesquelles les noms incongrus de « domitor » ou « mouvonographe », on opte pour « cinématographe ». Les caractéristiques techniques des pellicules sont fixées et resteront les mêmes jusqu'à nos jours. 16 images par seconde, une bobine de 35 mm de largeur, des perforations carrées. Auguste et Louis se mettent alors à la réalisation de petits films qui resteront célèbres. Le premier de ces courts-métrages avant la lettre montre une sortie d'usine. Là encore, la visée est autant artistique que scientifique et sociale. Il faut montrer que le nouveau monde industriel n'est pas seulement celui du travail des classes laborieuses. Il est aussi un monde dans lequel on peut immortaliser son existence sur une pellicule. Une séance est organisée à Lyon le 10 juin 1895 devant une vaste assemblée médusée. Puis le 28 décembre suivant, c'est la consécration. On projette une série de petits films à Paris, dans une salle du boulevard des Capucines, le Salon Indien. Plusieurs scénettes se succèdent. La sortie des usines Lumière à Lyon, la voltige, la pêche aux poissons rouges, le débarquement du congrès de photographie de Lyon, les forgerons, le jardinier, le repas, le saut à la couverture, la place des Cordeliers à Lyon. La mer. Le succès est fulgurant. Pour la presse, avec le cinématographe, la mort même cesse d'être absolue.
On se demande ce qu'on pourra, en art, au théâtre par exemple, réaliser avec ces photographies agissantes, ambulantes. C'est la réalité même. Et ce merveilleux cinématographe qui nous rend le spectre des vivants, nous donnera-t-il, en nous permettant d'en conserver le fantôme, et les gestes et le son de la voix même, la douceur et les caresses des êtres disparus.
Depuis le monde entier, on passe commande du cinématographe. Rois et reines demandent à avoir leur projection privée. On organise des séances pour le frère du prince de Galles, pour la princesse Alexandra de Russie, le roi Oscar de Suède, l'empereur François-Joseph, le roi de Roumanie. Lors de l'exposition universelle de 1900, les frères Lumière vont faire des prodiges. Depuis 1898, ils ont proposé d'organiser des projections géantes. Mais la première entreprise, un peu mégalomaniaque, a échoué. Auguste et Louis ont essayé de tendre un écran de 24 mètres sur 30 et de projeter ainsi des images sur une surface de plus de 700 mètres carrés. Mais le drap, déplié depuis le premier étage de la tour Eiffel et soumis au moindre coup de vent. Alors on finit par réduire ses dimensions. La projection a finalement lieu sur un écran de 16 mètres sur 21 dans la grande salle des machines construite pour l'exposition. 326 séances sont organisées, durant lesquelles des employés arrosent constamment le drap pour le rendre plus lumineux. Le procédé d'un drap tendu permet de voir les images des deux côtés. Le cinéma grand public est né. Et parmi les films les plus célèbres, bien sûr, l'immortel Arroseur arrosé. Les frères Lumière, au seuil du XXe siècle, inscrivent leur nom dans la légende. Ils ne vont pas s'arrêter là. Ils ont déjà mis au point des procédés de photographie couleur grâce à l'utilisation de trois couleurs primaires, bleu, jaune, rouge. Ils ont aussi mis au point les vues en relief au moyen de lunettes filtrantes. Lors du premier conflit mondial, les appareils des frères Lumière sont utilisés pour les premières photographies aériennes. Parmi les centaines de brevets qu'ils ont déposés, il en est, chimie oblige, qui entre dans le domaine de la médecine, comme la bande de tulle gras utilisée pour les brûlures graves. Auguste et Louis s'éteignent au lendemain de la guerre en 1848 et 1954. Pour toujours, leur nom est désormais associé à ce pouvoir de faire rêver qui reste l'apanage du cinéma. C'est la fin de ce double épisode consacré à la découverte du cinéma par les frères Lumière. Si cette plongée dans l'histoire vous a plu, parlez-en autour de vous et faites-moi part de vos commentaires sur le groupe Facebook Au cœur de l'histoire. Je vous lirai, je vous répondrai. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer ou la plateforme sur laquelle vous écoutez habituellement vos podcasts. Au cœur de l'histoire est une création originale Europe 1 Studio. L'épisode que vous venez d'entendre a été écrit en collaboration avec Jean-Louis Bachelet. La réalisation est de Clément Ibrahim. Et si vous voulez aller plus loin, la bibliographie de cet épisode vous attend bien sûr sur le site d'Europe 1. À très bientôt.